bonjour. Moi aussi, je suis très ravi d'être ici, d'échanger avec pareil, des gens qui travaillent sur les ambiances. Moi, je travaille plutôt sur l'espace public, je travaille plutôt sur la question environnementale. Donc, je pense qu'il y a des enrichissements respectifs qui peuvent se faire. Je vais avoir une intervention que je vais, qui va être rétrécie et je vais essayer de voir tout ce qu'on peut tirer d'un sujet assez précis, assez rétréci. Mon intervention va porter sur la participation des artistes et plus généralement les acteurs de l'esthétique, les artistes, les architectes, les paysagistes, tout ce monde que vous connaissez bien, aux mobilisations d'habitants. J'essaierai de dégager la signification de cette participation à partir de différents exemples sur Montréal, sur Barcelone, par différents endroits. La conclusion de tout ça, ça va être que, on travaille pas mal avec Nathalie là-dessus, hein, ça va être l'idée que les acteurs de l'esthétique vont mettre en forme l'expérience des habitants riverains pour qu'elle puisse être restituée, devenir recevable, circuler et être mise en débat public. Ce faisant, les artistes vont transformer la politique et ils vont participer à la constitution d'un nouveau sujet politique qui est l'habitant. Et ils vont ébaucher une nouvelle expérimentation politique qui est bâtie autour des enjeux esthétiques sensibles et des enjeux de l'habitant. Le plan de ma présentation, ça va être d'abord de, avant d'aborder les mouvements, les mobilisations esthétiques, on va commencer par des mobilisations urbaines classiques, des mobilisations d'habitants beaucoup plus classiques, pour voir un peu comment ça fonctionne, de manière à voir ce que les artistes apportent de plus. Ensuite, j'analyserai quelques exemples, effectivement, de collaboration entre des artistes et des mouvements riverains, ce que j'appelle les mobilisations esthétiques, leur signification, et pour conclure, j'essaierai de voir comment limiter l'instrumentalisation du recours à l'esthétique. Parce que l'esthétique, comme on l'avait dit, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, se prête très bien à l'instrumentalisation par les grands fabricants de la ville, par les gestionnaires, par la politique. Donc comment on peut se garder de cette esthétisation pour garder un peu une fraîcheur critique et transformatrice à ce recours à l'esthétique. Alors, sur les dynamiques protestataires riveraines, je crois que je vais dire des choses qui vous sont assez familières. D'abord, il y a des catégories. Et il est important de voir un peu ce que signifient ces catégories. La première catégorie, c'est celle de riverain. Le riverain, finalement, c'est surtout le nom qu'on donne à l'habitant du point de vue de l'aménageur. Pour l'aménageur, le riverain, c'est celui qui habite à côté du projet d'équipement, qui va être le gros méchant nimbiste, qui va s'opposer au projet, qui va résister, qui va... Ça c'est clair. Il est donc situé dans l'environnement du projet. Le riverain, c'est aussi celui qui est sur les berges du fleuve. Mais il n'est pas seulement sur les berges du fleuve, je dirais qu'il est sur les berges du politique. Il est au bord du politique. C'est quelqu'un qui va passer au politique, mais d'une manière pas très orthodoxe, pas très satisfaisante pour les théoriciens. Il ne fait pas une belle montée en généralité comme on aimerait, c'est d'une autre manière. Ensuite, le riverain, c'est aussi un habitant. Alors l'habitant, ça, vous connaissez ça aussi bien que moi, hein, peut-être mieux. L'habitant, c'est un sujet qui est attaché. C'est-à-dire qu'il est caractérisé par la richesse, la diversité des liens qu'il rattache à ses territoires de vie. L'habitation, le paysage, le quartier urbain, le lieu. Et ce qui semble important là-dedans, c'est que, compte tenu de ses attaches au territoire de vie, on peut définir l'expérience de l'habitant comme étant, alors, esthétique, on pourrait dire plutôt esthésique. Hein. L'idée, c'est quoi? L'expérience de l'habitant, il a des relations avec son environnement qui sont multidimensionnelles. Ces liens vont faire l'objet d'une forte implication personnelle. Elles vont faire l'objet d'une expérience vécue. Cette expérience, elle est à la fois sensorielle, bien sûr, sensible, elle va intégrer les émotions, elle est imaginative, parce qu'elle va transfigurer le réel, et elle est signifiante. On verra d'ailleurs arriver le langage, on verra arriver toute cette dimension langagière. Alors, pour qualifier cette expérience, je pense qu'on peut utiliser le terme d'esthétique. Mais esthétique ou esthésique au sens étymologique du terme. Parce que pour les Grecs de l'Antiquité, l'esthésis, c'est la perception par les sens. Donc cette expérience de l'habitant, elle va traduire l'appropriation de l'environnement par les habitants. On voit qu'avec cette notion d'esthésique, on va pouvoir rapprocher les habitants et les artistes qui s'associent à leur lutte. Parce qu'on a une proximité. Deuxième idée pour ces dynamiques des riverains, la logique de mobilisation. La logique de mobilisation, c'est finalement un projet arrive, il transforme le territoire de vie, il modifie le territoire de vie de l'habitant. Il y a de l'émotion, il y a de la violence, il y a une entrée en politique. Autrement dit, toutes ces attaches de proximité, elles vont être réinvesties dans un engagement politique ou un mouvement social. Le problème, c'est que cette entrée en politique, elle n'a pas les belles caractéristiques que voudraient les théoriciens de la science politique, par exemple. C'est-à-dire que l'habitant qui rentre en politique, il va rentrer en revendiquant son ancrage local, il va mêler des arguments rationnels et beaucoup d'émotions, donc il va subir une double critique. On va lui dire « tu manques d'objectivité », dans ta réaction, et on va lui dire également, tu as des attaches locales, donc tu ne défends pas l'intérêt général. Autrement dit, tu es en France, on dirait, un bouseux, c'est-à-dire que tu as les pieds dans la glaive, dans la boue, qui défend ton précaré, qui défend ton petit territoire. Et pourtant, ces mobilisations riveraines ont un contenu politique. C'est ce que je vous ai dit, hein. On a des attachements de proximité, il y a leur remise en cause, c'est réinvestir dans un engagement politique. Alors, c'est ce que des collègues sociologues comme Laurent Thévenot appellent les politiques du proche. Et ces politiques du proche, elles composent un collectif politique sans utiliser les registres habituels. C'est-à-dire, on ne fabrique pas l'intérêt général, on ne privilégie pas la rationalité scientifique, on ne s'émancipe pas des attaches locales et on n'évacue pas les émotions. Donc c'est une autre manière de rentrer en politique. Bon. Ça, c'est un peu... On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je ne vous parle pas des belles associations qui défendent un intérêt général. On parle des riverains, des petits collectifs de riverains qui ne sont pas fréquentables. Quoi. Alors, maintenant qu'on a vu comment fonctionnaient les mobilisations riveraines, les mobilisations d'habitants, de l'Enbiste, on va maintenant analyser des expériences où les artistes collaborent avec les mouvements de riverains. J'en ai choisi 5, hein. On le détaillera, hein, donc c'est pas la peine qu'on passe longtemps là-dessus. La première, c'est un paysagiste militant qui participe à un travail associatif qui va légitimer l'expérience riveraine dans le combat contre un projet de ligne à très haute tension. Alors, comment est-ce qu'on simule l'insertion d'une ligne à très haute tension dans un paysage rural du Lot? Il y a deux manières de faire une simulation 3D. La première, c'est celle-là. Alors celle-là, vous voyez, ça, c'est la simulation qui est proposée par le maître d'ouvrage. Vous voyez comment ça marche, hein? C'est le vol d'oiseau, c'est la modalité aérienne. On adopte un point de vue de l'aménageur, du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage surplombe, il plane au-dessus du local. Hein? Le planeur, en anglais, l'aménageur, il plane au-dessus du local, il surplombe. Et du coup, le vol d'oiseau va minimiser l'impact qui va être écrasé par le surplomb. Il y a une contre-simulation qui a été réalisée par un paysagiste qui milite dans l'association de défense de l'environnement. C'est une simulation à hauteur d'homme. Elle correspond mieux au point de vue des riverains. Elle permet d'approcher l'impact du projet de la ligne sur des paysages ordinaires. Ce n'est pas du tout un paysage exceptionnel. Hein. C'est ces petits coteaux du Lot qui sont très... Bon, ils n'ont rien d'exceptionnel. Mais c'est le paysage quotidien des gens. Et là, on voit bien que la ligne à haute tension, là, elle est beaucoup plus visible que là. Hein. Là, vous voyez, elle disparaît dans le paysage, c'est pas un problème, elle est écrasée. Et puis, elle traduit cette puissance de l'aménageur hein, qui surplombe. Hein. Là, bah non, là, on écrase les petits coteaux, on écrase les petites collines. Donc, premier aspect, on voit un petit peu comment l'usage des formes permet d'approcher une expérience d'habitant. Deuxième exemple, c'est un éco-artiste et un paysagiste qu'on est allé voir avec Nathalie en Hollande, et qui s'appelle Jeroen van Westerm. Alors là, on est en Hollande. La Hollande, c'est un pays formidable. La Hollande, on fabrique la nature sans complexe. Hein. On fait de la nature tous les jours. Là, l'idée qu'il s'agissait pour ce projet, c'était de revitaliser un paysage mort qui a été stérilisé par l'exploitation industrielle et asséché par l'agriculture industrielle et asséché par l'exploitation de la tourbe. Hein. Il y a eu des tourbières, on a complètement asséché, c'est donc un territoire mort.
Alors, le projet va essayer de recréer un paysage, recréer un territoire, et la pièce maîtresse de cet aménagement, c'est un ruisseau. Il faut créer un ruisseau qui s'était asséché dans le marais initial. Le paysagiste en charge du projet, c'est Jérôme Van Wester. Il va utiliser les récits des habitants pour confectionner le ruisseau. Autrement dit, il a connecté les histoires vécues, les souvenirs qui témoignent de l'attachement des riverains au paysage, de la valeur qu'ils accordent aux composantes de ce paysage, en particulier le ruisseau. Si le riverain raconte un bon souvenir, souvenir de pêche, repas champêtre, le tracé du nouveau ruisseau va être attiré par la propriété du dit riverain. Si le récit du riverain met l'accent sur les nuisances apportées par le ruisseau, le nouveau tracé s'éloignera. Alors ça, c'est théorisé par Kandinsky. Hein, vous voyez, vous pouvez lire, c'est effectivement, on utilise Kandinsky pour faire finalement, pour transformer des récits de riverains en tracés de ruisseaux. Troisième exemple. Alors là, on est dans le Saint-Laurent, la côte nord du Saint-Laurent. La côte nord du Saint-Laurent, les riverains commencent à sentir les conséquences très fortes du changement climatique. L'érosion aggravée des berges du fleuve menace leur habitation. Il y a des artistes québécois qui ont accepté de réaliser cette peinture avec les habitants pour populariser leur combat, mais surtout pour traduire leur émotion. Parce que les artistes, là-dedans, ont contribué à apaiser l'expérience douloureuse et l'émotion des riverains. Il y a trois modalités pour ça. Une mise en commun. Les émotions sont socialisées. Alors, bon, vous voyez, le Saint-Laurent, c'est un fleuve, hein, c'est pas la mer. Donc, on n'a pas ces grandes vagues gigantesques. Ces grandes vagues gigantesques, qu'est-ce qu'elles traduisent ? L'émotion, la détresse des riverains qui se disent que leur maison va bientôt se casser la figure. Et les politiques d'aménagement au Canada ne sont pas sympathiques, hein, ce n'est pas des politiques tendres. C'est-à-dire que quand on arrive à une certaine distance de la zone érodée, on évacue les gens, on vire, on exproprie. Donc là, il y a cette grande inquiétude qui est traduite par les grosses vagues qui sont faites. Hein. Donc, mise en commun, c'est bien sûr des émotions, une espèce de mise à distance objectivante. C'est-à-dire que le riverain qui a cette émotion, au lieu d'être cette personne rougeaude qui s'énerve, qui bredouille, à partir du moment où la peinture met à distance l'émotion, on peut commencer à discuter beaucoup mieux. On met à distance l'émotion, donc c'est les grandes vagues qui vont exprimer, qui vont objectiver l'émotion du riverain. Il va peut-être pouvoir parler plus calmement. Et il y a une forme de reconnaissance. Là, c'est les théories d'Axel Honneth, hein. Il y a une reconnaissance. C'est légitime d'avoir cette émotion. Alors, quatrième exemple, sur Barcelone, une alliance entre des artistes activistes, militants et des associations de quartier dans les mobilisations urbaines barcelonaises. Qu'est-ce qui se passe ? Barcelone est en train de changer. Il y a des grandes transformations très importantes. Elles perturbent totalement les territoires de vie des habitants, hein, ce qu'on appelle les associations de voisins, qui ne se reconnaissent absolument pas dans la vie nouvelle qui leur est proposée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les artistes vont s'associer au mouvement de riverains. Les mouvements d'habitants, les mouvements de voisins vont faire une alliance avec des collectifs composés de jeunes radicaux et qui sont animés par des artistes militants. Une de leurs pratiques, par exemple, ces nouveaux collectifs, ils vont agir dans les zones de transformation rapide, dans les fronts où les grands projets urbains sont en train de restructurer la ville en suscitant la contestation des voisins. Qu'est-ce qu'ils ont comme forme de lutte ? Ils vont par exemple proposer des occupations temporaires, et là ce que vous avez devant vous c'est un jardin de quartier, hein, qui a été fait avec les habitants, dans tous les espaces stratégiques. Barcelone n'est pas un pays, ça n'est pas une ville sympathique, hein, il n'y a pas beaucoup de participation, il y a beaucoup de coups de bâton, de coups de matraque. Qu'est-ce qui se passe ? Les flics arrivent. Donc ce qui est intéressant c'est de voir que les artistes s'immergent dans le mouvement des voisins. Et ça illustre un peu une posture qui refuse toute coupure entre l'art et son public. Hein. Donc, comme les voisins, les artistes vont s'exposer au coup de matraque des policiers barcelonais qui sont fort peu à l'aise. Comme les voisins également, ils vont s'exposer au choc des bulldozers. On les voit qui arrivent, hein, qui ne vont pas tarder à détruire les jardins en question. Ils vont s'exposer au choc des bulldozers venus détruire les fragiles jardins gagnés sur la rénovation. Bon. Ce que je veux vous dire, c'est que bon, l'application des artistes ne se limite pas à témoigner avec leur corps de leur engagement militant. Hein. Ils ne sont pas simplement là pour se prendre des coups de bâton, on est d'accord. Un autre aspect de l'action de ces collectifs d'artistes, ça va être, si vous voulez, de faire avec les habitants des projets alternatifs de réhabilitation de quartier. Et d'une certaine manière, ces artistes considèrent que c'est leur propre production esthétique. C'est-à-dire que ce projet, par exemple, ça fait partie de leur production esthétique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps. Hein. L'idée, c'est de se dire qu'on a effectivement un quartier qui a c'est un complexe industriel du 19e qui s'appelle Camp Ricard, hein, qui est dans Poblenou, qui a une forte importance là-bas. Dans ce quartier, il y a une mémoire ouvrière révolutionnaire. Il y a des petites entreprises artisanales très innovantes. Il y a la présence significative depuis longtemps des artistes dans la vie du quartier. Ça, c'est passé, c'est la tradition auquel se réfèrent les mouvements voisins. Ce que vont apporter les artistes, ça va être de faire des propositions avec les voisins qui vont, si vous voulez... J'essaie d'aller vite pour pas trop... L'idée, c'est qu'ils vont combiner la mémoire des habitants avec leur capacité d'invention. C'est-à-dire qu'ils vont proposer des projets qui peuvent s'inscrire dans le récit des habitants concernant leur quartier, ce récit avec des événements, avec des caractéristiques, avec une certaine écologie locale, et qui vont pouvoir le prolonger d'une manière acceptée. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail. Disons que, compte tenu de l'importance des espaces créatifs, vont proposer des nouveaux lieux de rencontres, de ressources entre l'art, la science et la technologie. Des nouveaux usages, mais des usages qui n'excluent pas les habitants en question. On va passer à un dernier exemple. C'est un collectif d'artistes montréalais. Alors, qui va revivifier un quartier en déshérence par des œuvres d'art relationnel qui vont modifier la relation entre les habitants. Alors, là, ce que vous avez devant vous, c'est une œuvre d'art. Hein, c'est l'Agora. C'est une sculpture place publique qui a été réalisée par un artiste qui s'appelle Charles Baudelin et qui a été conçue par son auteur comme un équipement à l'usage des citoyens. L'appropriation de l'Agora va bien avoir lieu, mais au profit d'usagers imprévus. Les usagers imprévus, c'est les SDF, hein, les personnes itinérantes du centre-ville qui vont faire un lieu d'habitation. Du coup, la place va se trouver marginalisée. Sa destruction va être programmée, parce que dans le nouveau Barcelone, il n'y a pas place pour ça. Hein, il faut pouvoir finir, ça fait tâche, tout ça. Et jusqu'à ce qu'un collectif d'artistes d'art va s'installer pour expérimenter directement dans le domaine public. Et ils vont poser un certain nombre d'actions dans le quartier. Voilà une des actions qui est proposée par Tardar. Cette action, elle s'appelle « Porteur de rêve ». Dedans, nous sommes tous des beaux rêveurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On revérifie l'espace public. Comment on le revérifie? On instaure une autre figure dans la ville. La performance artistique révèle ce qu'on ne voyait plus, le SDF endormi au cœur de la cité. Mais là où on avait un corps qui était muet ou grenouillant, il accède au langage. Le corps du SDF, il ne se contente pas d'être mendiant et parasite, il est porteur de rêve. Autrement dit, le SDF gagne un autre corps, il devient un beau rêveur. Ensuite, cette performance va installer de nouvelles relations avec les habitants. Les SDF sont valorisés par la geste des artistes, ils vont collaborer avec eux, et la restitution de l'expérience vécue du SDF par les artistes va contribuer à la réintégrer dans la communauté de quartier. L'expérience va attirer les curieux et les amateurs d'art. Autrement dit, l'expérience de Darda, qui est racontée ici, c'est Suzanne Paquet, hein, une collègue canadienne qui a travaillé là-dessus, ça va attirer notre attention sur la plasticité des formes. Les formes urbaines ont une vie politique. C'est-à-dire qu'on a vu l'Agora, qui était une sculpture place publique, qui est devenue un monument, une forme durcie. Ensuite, elle s'est marginalisée par son appropriation exclusive par les sans-abri. Et grâce au collectif d'artistes, on va avoir peut-être une transformation d'ambiance, hein, on intervient peut-être dans vos logiques d'ambiance, artistes producteurs d'ambiance, une transformation de l'ambiance qui va revivifier cette forme fatiguée pour qu'elle redevienne un support d'activité. Bon, Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Premier point, quelle est la signification de ces mobilisations esthétiques? Dans ces expériences, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les acteurs de l'esthétique mettent en forme l'expérience riveraine pour la légitimer, la mettre en débat. Elle est restituée, elle devient recevable, elle circule, elle est mise en débat. Elle n'est plus cette espèce d'implicite, cette boîte noire dont on ne sait rien, sinon des expressions émotionnelles qui sortent comme ça, j'aille nulle part. Inversement, la capacité de mobilisation des acteurs de l'esthétique aux côtés des associations nous informe sur la dimension profondément esthétique de la relation entre l'habitant et son milieu de vie. C'est-à-dire que tous ces mouvements s'appuient sur la valorisation de la relation environnementale tout en la redéfinissant comme sensible, imaginative, médiale, ça fait intervenir le milieu, et esthétique. Ça met l'accent sur l'importance du sentiment esthétique dans la relation environnementale. On rejoint le travail commun avec Nathalie. Alors je crois que je ne vais pas avoir le temps de continuer peut-être pour la suite. Non, c'est un peu juste.
Oui.
Hein? On en discutera dans la conversation.